Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Comment faire pour entrer dans ses droits en cas d'un licenciement abusif? On en parle avec Maître Guilhem Allaire, consultant à l'ONG RCN Justice et Démocratie. Vous savez, en République démocratique du Congo, ils sont nombreux, ces personnes qui crient à l'injustice lorsqu'ils sont envoyés de leur travail. Ils accusent souvent leur patron de les avoir licenciés de manière abusive. Une accusation que rejettent la plupart d'employeurs. Qu'est-ce qu'un licenciement abusif et quelle est la procédure à suivre pour introduire un recours? Appelez-nous déjà, vous avez été licencié, vous connaissez des cas, vous avez peut-être des témoignages, composez le 081 890 63 94. Alors Maître Guilhem, d'abord c'est quoi un licenciement abusif?
Oui, en quelques mots, on peut dire que licenciement abusif est celui qui est fait en violation des règles légales, en matière de rupture de contrat du travail. Oui. Parce qu'il convient de savoir que la loi prévoit effectivement qu'il est possible que l'une ou l'autre des parties, c'est-à-dire soit l'employeur, soit le travailleur, puisse résilier un contrat de travail. On n'est pas censé rester dans les liens du travail à vie. C'est donc un contrat, c'est un accord entre deux parties. L'une ou l'autre, pour des raisons qui lui sont propres, peut décider d'y mettre fin. Mais la loi organise les conditions dans lesquelles un contrat de travail peut être rompu de manière régulière. C'est lorsque vous allez en dehors des conditions qui sont prescrites par la loi que vous tombez sous le coup du licenciement abusif.
Oui. Alors si par exemple un travailleur n'a pas répondu aux conditions du contrat ou il n'a pas respecté ses devoirs, pour arriver finalement à un licenciement, quelles sont les étapes qui précèdent? Alors, souvent on parle de blâme et autres demandes d'explication.
Très bien, oui, effectivement. Il faut aller dans le Code du travail pour trouver la disposition qui règle cette question.
Oui.
Et l'article 62 du Code du travail dit que le contrat à durée indéterminée, parce que nous sommes ici dans l'hypothèse du contrat à durée indéterminée,
oui,
parce que pour le contrat à durée déterminée, le problème ne se pose pas. À l'arrivée du terme, il s'éteint automatiquement.
Mm-hmm.
Mais pour le contrat à durée indéterminée qui nous intéresse ici, il peut être résilié, dit la loi, l'article 62 du Code du travail, à l'initiative de l'employeur, pour un motif valable lié soit à l'aptitude, soit à la conduite du travailleur. Donc vous comprenez que lorsque le travailleur s'avère, par exemple, incapable,
oui,
de fournir le travail qui est attendu de lui, parce que généralement on recrute les gens sur base des diplômes, etc., il y a comme une présomption de compétences,
oui,
mais sur terrain vous vous avérez n'est pas possédé les capacités qui étaient attendues de vous, eh bien la loi dit qu'en ce moment-là, l'employeur a le droit de résilier ce contrat. Il en est de même de la conduite au travail. Si par votre comportement vous mettez en danger, en violant les règles de la sécurité au travail, de l'hygiène, vous mettez en danger la vie des autres employés, vous détruisez l'outil de travail, eh bien l'employeur est en droit, dit la loi, de résilier un tel contrat.
Mmh.
Alors, dans ces cas-là, en principe, lorsqu'il y a une faute avérée dans le chef du travail, du travailleur, pardon, il y a plusieurs schémas qui sont offerts à l'employeur.
Oui.
Il peut soit, lorsqu'il ne comprend pas les raisons de votre comportement, vous adresser une demande d'explication, une lettre de demande d'explication,
oui,
à laquelle vous devez répondre généralement dans un délai réglé par la convention collective, qui est généralement de 48 heures. On vous demande de faire parvenir vos justificatifs.
Par rapport à un problème.
Par rapport à un reproche que l'on vous fait,
oui,
vous écrivez à votre employeur pour lui dire que si j'ai agi de la sorte,
c'est parce que
j'ai reçu telle instruction,
oui,
etc., etc.
Mm-hmm.
Et si les motifs convainquent votre employeur,
oui,
à ce moment-là, et bon, il estime, il y a un barème de sanctions qui figure aussi dans le règlement d'entreprise,
oui,
et il peut estimer que compte tenu de la gravité des faits, vous méritez une sanction légère qui peut aller du blâme à la mise à pied, etc. Le licenciement est la sanction extrême dans le barème des sanctions qui est prévu,
ouais,
par la loi, le Code du travail.
Voilà, maître, on est bien. C'est dans cette émission, les auditeurs appellent pour poser leurs problèmes, préoccupations, et vous êtes là pour leur rendre service. Nous avons en ligne depuis la ville de Mbandaka, l'Équateur, M. Blanchard. Bonjour, Blanchard.
Oui, merci, j'ai dit.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Blanchard?
Oui, j'ai trois préoccupations à poser à l'invité.
Oui.
Oui, la première, j'aimerais savoir que doivent faire les employés licenciés de manière illégale. et ils doivent aller présenter ces recours-là auprès de quel service de l'État?
Oui.
Et la dernière question, un employé journalier peut aussi introduire un recours en cas de révocation illégale. Voilà.
Merci Blanchard pour ces questions, Maître Valère.
Merci beaucoup, Monsieur Blanchard, pour ces questions ô combien pertinentes. Pour la première question, la réponse est assez simple. Lorsque vous êtes déjà victime d'un licenciement, c'est-à-dire que le contrat est rompu de manière abusive, en réalité, le recours à adresser à ce moment-là, il est adressé à un organe qu'on appelle l'inspection du travail. La loi dit que vous devez aller à l'inspection urbaine du travail ou à l'inspection du travail de votre ressort, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, et vous déposez plainte contre cet employeur en précisant dans votre plainte qu'est-ce que vous reprochez à l'employeur comme violation de la procédure prescrite par la loi en matière de rupture des contrats. Donc, il faut aller à l'inspection du travail, et là, un inspecteur du travail va recueillir votre déposition, et va convoquer l'employeur qui va envoyer son représentant pour s'expliquer par rapport à la plainte du travailleur. Donc, il arrive souvent que dans cette procédure que la loi appelle la procédure des conciliations préalables, que l'inspecteur du travail parvienne à concilier les deux parties. Et la loi dit que dans ce cas-là, il est possible que le travailleur puisse réintégrer son emploi, parce que c'est la première possibilité qui est actuellement offerte par la loi. La première hypothèse, c'est qu'on cherche à réconcilier les parties pour faire en sorte que les travailleurs puissent réintégrer son travail. Et c'est l'inspecteur du travail qui est outillé pour permettre à l'employé de bénéficier de ces dispositions légales.
Mais donc, il existe des délégations syndicales au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il faut saisir également la délégation syndicale?
Bon, la délégation syndicale intervient généralement dans la phase où le conflit naît encore au sein de l'entreprise et que la résiliation du contrat n'a pas encore eu lieu. Au moment où vous recevez la demande d'explication et que vous devez y répondre, il est conseillé à ce moment-là de faire part des faits qui vous arrivent à la délégation syndicale, qui peut se joindre à vous, à vos explications, pour tenter de convaincre l'employeur de ce qu'il se trompe, qu'il est sur la mauvaise voie. Mais lorsque toutes ces actions, votre propre explication personnelle, l'appui de la délégation syndicale au sein de l'entreprise n'ont pas abouti à faire fléchir votre employeur, qui finit par prendre sa décision de licenciement d'abusif, à ce moment-là, l'organe maintenant qui peut vous aider, c'est l'inspection du travail, parce que la loi dit que vous ne pouvez même pas aller au tribunal si vous n'avez pas encore été voir l'inspecteur du travail, dont le rôle est d'essayer de concilier les parties. Il va essayer de vous aider, de faire réfléchir le travailleur, l'employeur, de le faire fléchir là où vous-même vous avez échoué et là où la délégation syndicale a peut-être échoué. Eh bien, il y a un autre recours qui vous est
donné pour trouver une solution à l'amiable.
Exactement.
Et la troisième question, il dit pour un journalier, qu'est-ce qu'il doit faire, un journalier qu'on remercie comme ça?
Bon, alors, la loi dit que le travail au jour le jour, c'est comme ça qu'on appelle les journaliers, ça veut dire que ce sont des prestations journalières et la rémunération va avec, elle est comptée au jour le jour.
Oui.
C'est-à-dire que chaque jour qui se termine, en réalité, vous avez fait votre prestation. Alors, lorsque le travail au jour le jour est presté dans une durée inférieure à, je crois, à 22 jours, eh bien, à tout moment, lorsque l'employeur estime qu'il n'a plus besoin de vous, il suffit qu'il vous paye ce qu'il vous doit, il n'y a pas rupture abusive. Oui. Donc, c'est un travail qui est dit au jour le jour.
Voilà, nous avons en ligne depuis Kamina. Jacques, il est en ligne depuis Kamina. Jacques, bonjour. Jacques, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, je suis en ligne.
Oui, allez-y rapidement.
Oui, bonjour, je suis en ligne.
Oui.
Oui, ma préoccupation est la suivante. Hein.
Oui.
Nous avons une difficulté, c'est-à-dire l'employeur, au niveau, à la SNC bien sûr, il y a des agents, des enseignants qu'on appelle vacataires.
Oui.
Qui n'ont pas signé des contrats de travail avec l'employeur, c'est-à-dire. Et lorsqu'on demande maintenant les salaires, parce que ça fait déjà 8 mois, vous en doutez, qu'on n'est pas payé. Et lorsqu'on veut chercher à demander pourquoi on n'est pas payé, il y a des menaces qui pèsent sur nous. Tout n'étant pas syndiqué en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on soit, qu'on soit rétabli, qu'on nous puisse rétablir dans nos ordres? Parce que on n'est pas syndiqué, on n'a pas signé d'adhésion avec un syndicat. Mais lorsqu'on veut demander de quoi il est question, parce qu'il y a des menaces qui pèsent sur nous, on ne sait pas à quel sens se voit dans ce cas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la procédure à suivre dans ce cas? Parce qu'on n'est pas syndiqué, c'est ça mon grand problème.
Très bien, cette préoccupation de Monsieur Jacques, je crois.
Depuis Kamina.
Oui, oui, depuis Kamina est très importante, dans la mesure où il nous dit que ce sont des personnes, ces enseignants qu'il appelle les vacataires,
oui,
qui travaillent apparemment régulièrement pour l'entreprise. Or, si on se réfère au Code du travail, le Code du travail dit que le contrat de travail, c'est toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne, le travailleur, s'engage à fournir à une autre personne, l'employeur, un travail manuel ou autre, etc. Donc vous comprenez que souvent les gens ignorent que le contrat de travail ne doit pas être nécessairement écrit.
Ça peut être verbal.
Ça peut être verbal.
Oui.
Et donc dès le moment où vous allez prester pour quelqu'un, dès le moment où vous travaillez selon ses instructions, et dès le moment où il vous remet en échange une rémunération, vous êtes considéré comme ayant conclu un contrat de travail avec lui. Alors lorsque, dit encore la loi, il n'y a aucune précision sur la durée du contrat de travail, eh bien, la loi présume en faveur du travailleur qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée. Et le travailleur, dit encore la loi, peut prouver par toute voie de droit que, effectivement, il a presté pendant X temps pour telle personne, etc. Donc, le contrat de travail, il ne faut pas nécessairement que ce soit un écrit. Dans le cas d'espèce, je ne connais pas très bien les faits, ça devrait être approfondi, mais apparemment, il y a déjà des prestations permanentes qui sont effectuées pour le compte de cette entreprise.
Oui.
Maintenant, c'est curieux, l'employeur, tout en faisant travailler ces gens-là, eh bien, ne leur donne pas une rémunération.
Depuis 8 mois, impayé. Et puis, il y a des menaces.
Voilà, et quand ils réclament un salaire, on les menace.
Oui.
Ceci apparaît tout à fait insolite.
C'est pas correct. Hein.
C'est pas correct, parce que quand vous travaillez, la contrepartie du travail, c'est la rémunération.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce qu'ils ne sont pas syndiqués, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Alors, ils ne sont pas syndiqués, mais comme nous avons dit tout à l'heure là, il y a un organe important, un service important de l'État qu'on appelle l'inspection du travail. Eh bien, ils peuvent se rendre chez l'inspecteur du travail, déposer carrément une plainte contre cet employeur. Et qu'ils ne craignent pas, l'inspecteur du travail connaît le code du travail, il leur dira effectivement, vous avez un contrat de travail verbal. Il va donc convoquer le travailleur pour l'employeur pour lui dire comment est-ce que vous utilisez des gens sans les payer, et il va tenter d'obtenir à l'amiable que les droits de ces travailleurs là-bas soient respectés, faute de quoi il délivre à l'employeur un procès verbal de non-conciliation qui est un document qui peut lui permettre de saisir le tribunal. Et vous savez, beaucoup d'employeurs n'aiment pas aller devant les cours des tribunaux parce que là-bas, ils sont par moments condamnés à des fortes peines, de sanctions de dommages-intérêts, quoi. Voilà.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50, ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Alors, Maître Valère, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que lorsqu'il y a un employé qui commet une faute grave, il y a une demande d'explication et qui peut s'en suivre d'une mise à pied, ou bien vous avez parlé d'une mise à pied. Voilà. Alors, c'est quoi une mise à pied?
Bon, une mise à pied, c'est une sanction disciplinaire qui est prescrite par l'article 54 du Code du travail. En fait, lorsqu'il y a une faute de l'employé, il y a un barème de sanctions.
Oui.
Le licenciement étant la sanction la plus sévère. Et ce barème de sanctions va du blâme, passe par la réprimande, ensuite la mise à pied, et le licenciement avec préavis, et enfin le licenciement sans préavis. Donc la mise à pied, c'est comme une exclusion temporaire du travail qu'elle on inflige aux travailleurs.
Avec privation des salaires?
Oui, parce que vous ne prestez pas. Nous avons dit que les salaires, c'est la contrepartie. C'est la contrepartie du travail fourni.
Oui.
Et donc, lorsqu'on vous demande de rester d'abord à la maison, parce que vous avez commis telle faute, eh bien, c'est justement pour vous sanctionner. Et si on vous dit de rentrer à la maison et on vous paye votre argent, en ce moment-là, on ne vous sanctionne pas, on vous gratifie, donc, vous comprenez.
Oui.
Donc, c'est une sanction qui correspond à une certaine gravité des faits. Donc,
ça peut prendre combien de temps? Un mois? Deux semaines? Trois semaines?
Je crois qu'il y a un texte particulier qui organise la mise à pied.
Oui.
Et généralement, dans la pratique des entreprises, on a constaté que c'est autour de 15 jours maximum. Hein.
15 jours maximum.
Oui, oui,
nous avons en ligne, ouais, Serge nous appelle depuis la ville de Bounia.
Mais j'allais ajouter juste que on dit que la mesure de mise à pied, c'est jusqu'à concurrence de 2 fois 15 jours par an, hein, pas au-delà. Donc 15 jours, vous pouvez, si vous récidivez dans la faute, vous pouvez encore avoir 15 jours de mise à pied, mais c'est le maximum, hein, 2 fois par an. Dans le cas contraire, l'employeur passe à une autre sanction.
Donc si l'employeur n'a pas respecté toute cette procédure, demande d'explication, mise en pied, blâme, alors il vous licencie directement, on dira que ça peut être, on peut qualifier cela d'un licenciement abusif. Hein.
Non, pas du tout. Il n'est pas obligé de passer par les autres sanctions pour arriver au licenciement. Il peut arriver que les faits soient suffisamment graves, parce que tous ces faits-là, les fautes susceptibles de provoquer le licenciement, sont généralement mentionnés dans les règlements d'entreprise.
Oui.
Et donc,
c'est des fautes graves.
Et ça dépend de la nature de l'emploi que vous êtes en train de faire. Par exemple, je prends votre exemple, vous, Jody, ici à la radio, vous nous avez déjà fidélisé, nous les auditeurs, nous savons qu'à telle heure nous avons Jody. Oui. Et si pour une raison non expliquée, nous on vous cherche aux heures d'antenne auxquelles nous sommes habitués à vous suivre, vous entend pas.
Oui.
Et puis l'employeur est en mesure de vous sanctionner directement par le licenciement parce que vous avez fait une absence non justifiée, alors que votre présence est tout à fait importante pour le fonctionnement de l'entreprise.
Voilà
un motif qui peut justifier un licenciement directement sans passer par le blâme.
Voilà, on va retrouver Serge depuis Bounia. Serge, bonjour.
Oui, bonjour. Je voudrais au moins poser ma préoccupation de comment l'éviter.
Oui.
Et concernant la situation du licenciement, quand il y a la situation de force majeure ou un sinistre qui se produit dans une entreprise, par exemple, pétrolière.
Oui.
Et que le législateur peut prévoir au moins certaines précautions. Et c'est justement à propos de ça que je voulais au moins avoir un peu d'explication de la part de l'invité du jour.
Oui, effectivement, ça c'est un cas assez délicat, celui de la force majeure, dans la mesure où l'appréciation même du fait qui est qualifié de force majeure pose souvent problème. La loi, c'est-à-dire le Code du travail, quand j'ai dit la loi, son article 57, si je ne me trompe pas, dit qu'il y a force majeure lorsque l'événement qui est survenu est imprévisible, inévitable et non imputable à l'une ou l'autre partie. Et que cet événement aussi constitue une impossibilité absolue d'exécution des obligations contractuelles. La loi ajoute, et c'est ceci qui est souvent ignoré, que le cas de force majeure est constaté par l'inspecteur du travail. Ce n'est donc pas l'employeur, de manière unilatérale, qui dit « Je suis dans un cas de force majeure, je vous demande de rentrer à la maison, vos contrats sont suspendus. » La force majeure doit d'abord être constatée par l'inspecteur du travail. Si l'inspecteur du travail n'est pas intervenu pour venir sur le lieu du travail, constater l'événement qui constitue la force majeure et qui empêche notamment l'employeur d'exécuter ses obligations vis-à-vis de ses travailleurs, eh bien, dans ce cas-là, si on vous met en congé technique, comme on appelle ça, on vous met à la maison, on suspend le contrat, ceci est fait de manière abusive. Mais si l'inspecteur du travail vient et constate qu'il y a réellement un cas de force majeure,
oui,
à ce moment-là, il donne son visa pour que l'on puisse suspendre les contrats de travail. Mais ce n'est qu'une suspension, les contrats ne sont pas résiliés. Lorsque le cas qui constitue la force majeure cesse, vous devez en principe revenir et reprendre les relations contractuelles. Et pendant ce cas de force majeure, il y a quelques droits minimums qui peuvent continuer à être assurés aux travailleurs. Mais là, c'est des détails vraiment techniques.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Monsieur Pierre est en ligne depuis Chicapa. Pierre, bonjour. Pierre, vous êtes en ligne, bonjour. Pierre est en ligne depuis Chicapa. On va peut-être le retrouver tout à l'heure. Il n'est plus en ligne. Alors, nous avons dans ce studio Maître Aguilin Malher Moudekereza, consultant à l'ONGRCN Justice et Démocratie. Vous avez des questions par rapport à ce sujet au licenciement abusif. Appelez-nous au 081-890-63-94 pour réagir. Alors, Maître, il y a certaines personnes qui, on a vu ça à plusieurs reprises, des travailleurs licenciés abusivement qui se rendent à l'inspection du travail, qui font du bruit, puis qui chantent, puis après, mais il n'y a toujours pas de solution à une suite favorable. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça?
Bon, je dirais que souvent, il y a des, peut-être des solutions qui arrivent, mais très tard, à cause de la lenteur
de
l'administrative et la lenteur de la justice, malheureusement.
Oui.
Déjà, au niveau de l'inspecteur du travail, les choses vont plutôt vite. Parce que il adresse une première convocation à l'employeur, une deuxième, une troisième. Si l'employeur ne vient pas, il dresse son procès verbal de carence pour dire d'abord qu'il ne vient pas, ensuite de non-conciliation pour dire qu'à son niveau, il n'a pas réussi à concilier les deux parties.
Mmh.
Avec ce document, et ça va très vite généralement, les travailleurs vont saisir maintenant le tribunal, les juges siégeant en matière du travail. Et c'est à ce niveau-là justement que, à cause de la procédure judiciaire, les choses parfois traînent. Mais maintenant, avec la nouvelle loi qui porte création, organisation des tribunaux du travail et qui prescrit la nouvelle procédure à suivre en matière des affaires du travail, il est dit maintenant que le juge ne peut pas, par exemple, accorder plus de 3 remises. C'est-à-dire que quand on va à l'audience, ce n'est pas le même jour complet de l'affaire en matière du travail et en matière judiciaire en général. Les juges accordent des délais aux deux parties pour pouvoir peaufiner leurs arguments. Alors, et souvent, quand vous allez à l'audience, le juge vous dit, je vous donne un mois. Prenez encore trois semaines, etc. La loi limite ces remises à 3. Le juge ne peut pas remettre les débats plus de 3 fois.
Oui.
Alors, à la 3e remise, vous êtes obligé de plaider l'affaire. Ceci permet de raccourcir un tout petit peu les délais qui sont dus à la lenteur judiciaire. Alors, nous espérons qu'avec l'application stricte de ces nouvelles dispositions, les affaires du travail iront plus vite. Sinon, malheureusement, dans le passé, on a constaté que la lenteur judiciaire, la lenteur administrative, faisait que les affaires traînaient. Même s'il y avait un dénouement, il arrivait même qu'il y a un dénouement positif pour les travailleurs, mais certains d'entre eux étaient déjà décédés au moment où leurs droits étaient enfin reconnus. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi...
Peut-être que leurs enfants vont...
Oui, les ayants droit. J'allais dire, n'oubliez pas aussi que le travailleur a quand même des... L'employeur a des droits aussi. Même lorsqu'il est condamné au premier degré par les tribunaux de grande instance, par exemple, il a le droit d'aller en appel. Et généralement, ils n'acquiescent pas très vite au jugement.
Oui.
Ils vont en appel, on recommence la procédure.
Et ça prend du temps, ça traîne.
Tout ceci fait que ça traîne. Oui. Et malheureusement, les travailleurs qui est la partie économiquement faible, souvent, se sent lésé par toute cette lenteur. Mais c'est fait aussi ainsi pour que la justice soit correctement rendue.
Voilà. Et lorsque vous êtes licencié abusivement, par exemple, est-ce que vous avez droit à une décompte finale ou à d'autres avantages liés à votre départ?
Oui, absolument. Dans le cas des licenciements, et vous vous doutez bien que la loi a organisé tout ça, la première chose que l'employeur doit faire, c'est de vous remettre d'abord votre certificat de fin de service pour dire quand même que de telle période à telle période, vous avez travaillé à tel endroit.
Oui,
ça vous permet de chercher un autre emploi. Il y a le décompte final, c'est-à-dire toute somme qui vous restait due à quelque titre que ce soit, eh bien, on en établit un décompte et cet argent-là doit vous être payé. La loi dit que c'est dans les 2 jours de du licenciement.
Nous allons retrouver Pierre de Piticapa. Pierre, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Pierre?
Oui, j'ai 2 petites questions à poser. La première porte sur un licenciement abusif. Et lorsque je suis devant l'inspecteur du travail, je me réalise que c'est lié de mèche avec l'employeur.
Oui.
Quelle attitude adopter? C'est la première question.
Oui.
Deuxième question, je suis travaillé dans une entreprise, on me fait brandir un contrat à titre bénévole. Je suis licencié sur base d'un contrat à titre bénévole. Quelle attitude adopter? Existe-t-il un contrat à titre bénévole dans l'école du travail congolais? Voilà tout.
Merci Pierre. Maître Valet, qu'est-ce que vous allez dire?
Monsieur Pierre de Chicapa est vraiment très intéressant. Je commence d'abord par la deuxième question qui semble la plus facile. Il n'y a pas de contrat de travail bénévole.
Ça n'existe pas.
L'une des conditions essentielles du contrat de travail, c'est que, en contrepartie de la prestation que vous fournissez à l'employeur, lui vous remet une rémunération. Alors, s'il y a un contrat à titre bénévole, vol, je ne sais pas comment on peut les qualifier.
C'est une nouveauté. Hein.
En tout cas, c'est pas un contrat du travail. Donc, oui. Celui qui a dit, celui qui a même osé brandir un tel contrat,
oui.
Et, n'est-ce pas, est manifestement de mauvaise foi. Et l'inspecteur du travail doit pouvoir lui dire que,
oui.
Monsieur, même si vous avez rédigé votre bout de papier que vous dénommez contrat bénévole, sachez que la loi dit que, en réalité, même si vous n'avez pas signé de contrat, il existe un contrat de travail verbal.
Oui.
Et sur base de ce contrat-là, nous allons vous poursuivre en vous demandant d'abord de respecter les droits de votre travailleur.
Voilà, maintenant, si l'inspecteur du travail est complice, il travaille en complicité avec l'employeur.
Tout à fait. L'inspecteur du travail, il convient de savoir que c'est un officier de police judiciaire, un OPJ à compétences restreintes. Donc, c'est un OPJ, mais qui statue dans les matières du travail uniquement. Alors, par rapport à cela, les règles qui s'appliquent à tous les autres OPJ s'appliquent aussi à lui.
Oui.
Lorsque vous avez l'impression, effectivement, qu'il est...
Des mèches avec l'employeur.
Bon, j'ai préféré un autre terme, hein, j'ai préféré dire partial. Hein.
Oui.
Des mèches, ça les rend un peu filou, là.
Oui.
Et donc, s'il est partial, vous avez le droit d'écrire à sa hiérarchie pour dénoncer un certain nombre de comportements ou d'attitudes de l'inspecteur qui fait que vous lui retirez votre confiance.
Oui.
En ce moment-là, ils ont une hiérarchie, ils ont des inspecteurs divisionnaires, directeurs, etc.
Mm-hmm.
Ils vont désigner une autre personne pour instruire votre dossier. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre aux caprices, aux manœuvres d'un inspecteur que vous constatez manifestement partial.
Voilà, Maître Valère, on s'arrête là pour aujourd'hui. Maître Aguilin Malère Moudekereza, consultant à l'ONG RCN Justice et Démocratie. Merci et bon début de semaine.
Merci beaucoup, Jody. Merci à Radio Okapi et à ses auditeurs. Okapi.
Solo ya, je no mumbo ya bien.